France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Une décision historique pour la justice climatique. Le tribunal de La Haye oblige les Pays-Bas à mieux protéger l'île néerlandaise de Bonaire contre la montée des eaux. Les précisions de Fabien Cazot dans un instant. Donald Trump met en garde l'Iran. Le temps est compté avant une intervention américaine. Le régime iranien affirme qu'il répondra comme jamais. Derrière cette escalade, il y a la volonté des États-Unis de neutraliser le programme nucléaire iranien. Le décryptage à suivre de Christian Chéneau. Renforcer la lutte contre les violences à l'école, c'est l'objectif d'une proposition de loi présentée par deux députés LFI et Renaissance. Paul Vannier et Violette Spielboot avaient rédigé le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le scandale Betarame. Les élections municipales, une histoire de famille à Orange dans le Vaucluse. L'ancien maire Jacques Bompard briguera la succession de son fils Yann, déclaré inéligible. C'est un confetti néerlandais dans la mer des Caraïbes au large du Venezuela. L'île de Bonaire a remporté aujourd'hui une victoire éclatante sur le terrain de la justice. Un tribunal de La Haye a ordonné aux Pays-Bas de mieux protéger les 27 000 habitants de l'île face au changement climatique. Bonaire particulièrement exposé au risque de submersion lié à la montée des eaux. Le territoire est situé sous le niveau de la mer. Pour mener cette action en justice contre l'État néerlandais, des habitants se sont associés à Greenpeace. Fabien Cazot.
C'est une décision qui fera date en matière de justice climatique, non pas tant en termes de lutte contre le réchauffement que d'adaptation à ses conséquences. Lors du procès, les habitants de Bonaire ont notamment témoigné de leurs difficultés à maintenir leur mode de vie sur l'île, pêcher, aller à l'école, vivre dehors sous un soleil de plomb, sans parler des risques de submersion de la partie sud de l'île et des menaces induites pour leur santé. Face à ces constats, ils demandaient à l'État néerlandais dont ils dépendent d'élaborer un plan d'adaptation qui n'a pour l'instant pas vu le jour. Voilà donc que la justice condamne le Royaume des Pays-Bas à en concevoir un applicable en 2030, un chantier auquel pourra s'atteler le prochain gouvernement néerlandais qui est sur le point d'être nommé. Le tribunal a en revanche rejeté la deuxième demande des plaignants qui voulaient que les Pays-Bas accélèrent leur réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Greenpeace salue tout de même une décision historique qui, selon l'ONG, pourrait faire jurisprudence dans d'autres États.
Fabien Cazot, correspondant de France Culture à Bruxelles. Jusqu'où ira l'escalade verbale entre les États-Unis et l'Iran ? Le temps est compté avant une attaque américaine, a averti Donald Trump sur son réseau Truth Social. Le président américain qui a commencé à déployer une force navale dans le golfe Persique, une armada massive pour reprendre son expression. L'Iran répondra comme jamais à une attaque américaine, affirme aujourd'hui la mission iranienne à l'ONU. Le régime des Mollahs a réprimé dans le sang la révolte de sa population au début du mois. Sans doute plus de 30 000 morts selon les ONG et les médias d'opposition. Mais pour Donald Trump, la priorité aujourd'hui ce n'est plus de voler au secours des manifestants. Non, il s'agit d'abord de contraindre l'Iran à renoncer à son programme nucléaire et balistique, Christian Chéneau.
Les Américains veulent tordre le bras aux Iraniens pour qu'ils ne puissent pas enrichir de l'uranium. C'est la proposition du zéro enrichissement faite par Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Trump, juste avant les frappes israélo-américaines de la guerre des 12 jours de juin dernier. L'objectif étant d'étouffer complètement le programme nucléaire iranien. Demande inacceptable pour la République islamique qui fait valoir son droit à l'enrichissement conformément au TNP, le traité de non-prolifération dont elle est signataire. Téhéran a proposé d'enrichir de l'uranium sur son territoire dans le cadre d'un consortium associant les pays de la région sous un strict contrôle international. Parmi les points épineux, il y a la question des 450 kilos d'uranium enrichi à 60% dont l'AIEA, le gendarme nucléaire de l'ONU, a perdu la trace. Une quantité suffisante pour produire 10 bombes nucléaires si les centrifugeuses des sites iraniens étaient programmées pour atteindre le seuil militaire. À ce stade, Téhéran refuse de négocier sous la menace, même si un diplomate arabe nous confiait que des discussions étaient en cours entre Iraniens et Américains. Enfin, en plus du nucléaire, les États-Unis ont dans le viseur le programme balistique de la République islamique qu'ils voudraient voir mis sous cloche, mais là encore, c'est une ligne rouge pour Téhéran.
Décryptage signé Christian Chéneau de la rédaction internationale de Radio France. Face aux ambitions américaines sur le Groenland, la France affiche ostensiblement son soutien au Danemark. Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui à l'Élysée la première ministre danoise, Mette Frederiksen. À leur côté, le premier ministre groenlandais, Jens Frederik Nielsen. L'occasion pour le chef de l'État de lancer un appel au réveil stratégique de l'Europe. La réponse française s'est aussi traduite par une conférence baptisée Groenland Asarava, traduisée Groenland Je t'aime. Elle était organisée au musée de la Marine à Paris, rendez-vous inédit où se sont retrouvés écrivains, scientifiques et artistes, avec l'objectif de rappeler l'apport de la culture inuite à la France. Nathanaël Charbonnier.
Ils sont français et ils ont marqué l'histoire du Groenland. Jean-Baptiste Charcot, Paul-Émile Victor ou encore Jean Mallory. Ils sont artistes et leur art parle de cette terre, comme Maume Malo, auteur de romans policiers avec Meurtre au Groenland. Ils sont encore responsables d'organismes ou chercheurs et tous à leur façon participent à garder ce territoire du côté de l'Europe, affirme l'ambassadeur français des pôles, Olivier Poivre d'Arvor.
Aujourd'hui, on est dans un moment où il faut qu'on construise avec les Groenlandais. Aujourd'hui, on a gagné 1 million d'euros. Le CNRS vient d'annoncer que tout de suite, il y avait 1 million d'euros sur la table pour lancer des projets avec l'Université de Nuuk et avec d'autres laboratoires qui se trouvent au Groenland.
Et pour ceux qui doutent de l'efficacité de ce soft power, je vous propose d'écouter l'aventurier Nicolas Dubreuil qui vit là-bas et qui rappelle qu'il y a des forces discrètes qui sont plus importantes que celles des fusils et des canons.
Dans le groenlandais, le silence a une importance, même dans la phrase. Quand tu fais une phrase en groenlandais, tes moments de silence sont extrêmement importants. Alors par rapport à un dialogue agressif, tu vois, tonitruant, ce dialogue doux, sensible, il est crucial.
Enfin, même si la menace Trump reste réelle et inquiète, ce qui fait peur à la population, ce ne sont pas les États-Unis mais la banquise qui, cette année, s'est formée et se forme avec plus d'un mois de retard par rapport à d'habitude.
Il y a urgence à légiférer contre les violences à l'école, affirment Paul Vanier et Violette Spielboot. Les deux députés LFI et Renaissance ont présenté aujourd'hui une proposition de loi. 6 mois après avoir rédigé le rapport de la commission d'enquête parlementaire qui avait suivi le scandale Betaram. Leur texte intervient au moment où la direction de l'enseignement catholique envisage la fermeture du collège Béarnais, éclaboussé par des accusations de violence. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir,
c'est Michel Vazak. La proposition de loi Hakim s'inspire des 50 recommandations de la commission d'enquête parlementaire.
Oui, parmi les 11 articles de la proposition de loi, comme le renforcement des contrôles des établissements scolaires, au moins tous les 5 ans et même tous les ans, pour ceux qui ont un internat avec des élèves du premier degré, la plus importante et la plus symbolique, selon la députée Renaissance Violette Spielboot, est celle sur la reconnaissance par la nation de la gravité des violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire.
C'était dans nos premières recommandations la reconnaissance des victimes de ces violences systémiques dans les établissements scolaires, publics et privés. Donc une reconnaissance officielle dans cet article 1 qui sera une réalité quand cette loi sera largement votée, nous l'espérons, par l'ensemble des collègues à l'Assemblée nationale. C'est une première base pour une politique publique réparatrice envers la souffrance extrême de ces milliers de victimes, je le rappelle, dans des centaines d'établissements français pendant des dizaines d'années.
Autre proposition importante, selon le député LFI Paul Vanier, celle issue de l'article 9 sur la prolongation du délai de prescription du délit de non-dénonciation de certains faits.
Je dirais qu'elle s'attaque aussi à l'omerta, au silence qui trop longtemps a entouré ces violences, avec un allongement du délai de prescription du délit de non-dénonciation de crimes de violence sur des enfants, et puis avec l'objectif de lever le secret de la confession, qu'il ne soit plus possible d'opposer ce secret à la dénonciation d'un délit ou d'un crime concernant une violence sur un enfant.
De son côté, le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, a redit cet après-midi, dans une interview à nos confrères du Monde, que les contrôles d'honorabilité mis en place pour les nouveaux personnels de l'éducation devront avoir lieu tous les 3, voire tous les 5 ans. Enfin, les deux députés visent une inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale de leur texte d'ici le 7 avril.
Hakim Kasmi, spécialiste éducation à la rédaction de France Culture. Ils sont quatre dans le box des accusés du procès en appel de l'assassinat de Samuel Paty. Naïm Boudaoud et Azim Epsirkanov, deux amis de l'islamiste tchétchène Abdullah Kanzorov qui avait décapité le professeur en octobre 2020. Il y a ensuite le prédicateur islamiste Abdelhakim Sefrioui. Et enfin Brahim Chnina, le père de la collégienne à l'origine du mensonge sur le cours de Samuel Paty. Brahim Chnina, condamné en première instance à 13 ans de réclusion criminelle. Ses proches le décrivent comme un homme doux et généreux, alors que le dossier révèle au contraire une difficulté à contrôler ses émotions. La cour d'assises de Paris a examiné aujourd'hui sa personnalité, le compte-rendu d'audience de Florence Turme.
C'est d'abord l'image lisse d'un homme fatigué et malade qui s'impose. Une enfance heureuse dans les Yvelines, mais une fratrie marquée par la naissance d'un garçon lourdement handicapé. Sa mère repart au Maroc, Brahim Chnina va s'occuper de son frère pendant des années, jusqu'à son décès en 2012. Il crée une association de soutien aux personnes handicapées, travaille dans une société d'aide à la personne, au point, il le reconnaît, de délaisser son épouse et leurs 6 filles, qui m'ont, dit-il, apporté de la joie et du sourire. Papa Poule, note l'enquêtrice de personnalité. L'accusé se lève, très tiré, cheveux blancs, il a 54 ans. Son avocate fait remarquer qu'on lui en donne beaucoup plus. La voix atone, le propos parfois confus. Depuis l'assassinat de Monsieur Paty, paix à son âme, je suis mal, lâche-t-il. Au premier jour d'audience, il a dit regretter infiniment, présenter des excuses, mais je ne reconnais pas les faits. Au fil de l'interrogatoire, le visage de l'homme doux et tranquille se fissure toutefois un peu. Retour sur une vieille condamnation pour trafic de stupéfiants, une autre pour menace de mort contre une assistante sociale, une altercation avec une contrôleuse SNCF. Tu n'es qu'une femme, juste bonne à reproduire. Un conflit de voisinage qui dégénère. Je vais te rouler dessus et te sortir les boyaux. Les parties civiles s'en emparent. Alors d'un côté le super gars et de l'autre le Brahim Chnina qui insulte et menace. L'accusé soupire. J'ai fait des erreurs, comme tout le monde. Son avocat vient à la rescousse. On laisse entendre que vous seriez Jackie Kill et Hyde. On est d'accord que vous n'êtes pas parfait. L'accusé hoche la tête. Et des regrets, vous en avez ? Oui, beaucoup.
Florence Turme depuis la cour d'assises de Paris. Le verdict dans ce procès est attendu le 27 février. L'actualité judiciaire, mais dans un registre politique cette fois, c'est aussi le procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Place cet après-midi au dernier interrogatoire des prévenus. La cour a notamment interrogé l'ancien trésorier du FN, Valran de Saint-Just. Reconnu coupable de complicité de détournement de fonds publics, il a été condamné en première instance à 3 ans de prison, dont un enferme sous bracelet. On retrouve Anne Fauquemberg à la cour d'appel de Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Anne Valran de Saint-Just a été mise en difficulté aujourd'hui.
Oui, toute l'après-midi, la présidente enchaîne les pièces problématiques du dossier. Le mail de Valran de Saint-Just à Marine Le Pen en 2014. « Nous ne nous en sortirons que si nous faisons des économies importantes grâce au Parlement européen », est-il écrit. Valran de Saint-Just justifie. Plusieurs salariés du parti avec des gros salaires sont devenus des eurodéputés et on ne remboursait plus les frais de mission des députés, c'est ça. La juge, qui a l'air peu convaincue, sort alors une note dans laquelle le prévenu parle de 600 000 euros d'économies dues au Parlement européen en 2014 et d'1 200 000 euros les années suivantes. Comment vous passez de 600 000 à 1 200 000 euros, interroge-t-elle. Valran de Saint-Just n'a pas vraiment de réponse. Puis elle se penche sur le tableau « Payer autrement », s'étonnant de l'intitulé de ce document. Je venais d'arriver comme trésorier, je voulais savoir ce que chacun faisait, où était leur bureau et par qui ils étaient payés. Ce document n'était que pour moi extrêmement approximatif, insiste le prévenu. Enfin, il y a cet autre mail de 2014 envoyé par Valran de Saint-Just au tiers payant, Charles Vanhout, qui s'occupe des enveloppes des assistants parlementaires. Il y est question d'une demande de prime pour plusieurs assistants parlementaires, dont Catherine Grisé. C'est un peu difficile à comprendre ce que vous venez faire dans cette histoire de prime, alors que vous dites que vous n'avez rien à voir avec les assistants parlementaires, commente la présidente. J'ai dit que je n'avais fait que le télégraphiste, proteste Valran de Saint-Just. Mais pourquoi on vous le demande à vous, insiste la juge. Je ne me souviens pas d'avoir envoyé ce message, finit par dire l'ex-trésorier du FN. On voit bien qu'il y a là encore une espèce de mélange des genres, observe Michel Agy, la présidente.
Anne Fauquemberg, merci, en direct du Palais de Justice de Paris. À Orange, dans le Vaucluse, il y a toujours un Bompard pour briguer la mairie. Yann Bompard, l'actuel maire de la ville, a été officiellement démis de ses fonctions après avoir été condamné à 5 ans d'inéligibilité pour une affaire d'emploi fictif. Mais son père, Jacques Bompard, est prêt à reprendre le flambeau, lui qui a déjà été maire d'Orange pendant plus de 25 ans. Nicolas Ballu, bonsoir.
Bonsoir.
Jacques Bompard est un ancien du Front National et du Rassemblement National. Il a ensuite fondé la Ligue du Sud et il bénéficie d'une mesure de justice qui lui permet de briguer à nouveau la mairie en mars.
Oui, et c'est une surprise pour l'intéressé lui-même. En tout cas, c'est ce qu'il disait hier avant de se déclarer candidat à la succession de son fils. Petit rappel, l'ancien maire d'Orange, Jacques Bompard, maire depuis 1995, est condamné en appel le 25 mars 2021 pour prise illégale d'intérêt. La mairie avait vendu un local à la fille de Jacques Bompard et son gendre, revendu avec une importante plus-value. Jacques Bompard est condamné à 1 an de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. Il démissionne immédiatement de son mandat, fin de l'épisode. En juillet 2023, il y a 2 ans et demi, Jacques Bompard sollicite le relèvement de l'inéligibilité. L'affaire n'a été plaidée qu'au début du mois de janvier. Or, la Cour d'appel a constaté que la peine d'inéligibilité arrive à son terme le 25 mars 2026, soit 3 jours après le deuxième tour des élections municipales. Et que dit la Cour ? La nécessité d'assainir la vie politique, qu'elle soit locale ou nationale, doit être analysée à l'aune de la nécessaire proportionnalité de la peine, en l'espèce au regard de la vie personnelle et du débat démocratique à venir qui doit rester libre, je cite. La Cour d'appel fait donc prévaloir la liberté du débat démocratique, analyse l'avocat de Jacques Bompard. Voilà donc un délibéré qui va nourrir le débat sur l'inéligibilité sans aucun doute. Quant à Jacques Bompard, eh bien ce sera sa 6e candidature pour l'ancien membre du FN et fondateur du parti d'extrême droite, la Ligue du Sud. Bien que condamné, il espère redevenir maire. Son fils, Yann, lui a fait appel de sa condamnation pour emploi fictif. Il est inéligible pour 5 ans et dit qu'il serait opérationnel pour les municipal de 2032. Fin de citation.
Nicolas Ballu, service politique de France Culture. La surprise au Palais du Luxembourg tout à l'heure, le Sénat a rejeté la proposition de loi créant un dispositif d'aide à mourir. Il renvoie le texte à l'Assemblée qui se saisira de cette réforme sociétale d'ampleur sur la fin de vie à partir du 16 février en deuxième lecture. Après avoir refusé d'envisager toute forme de suicide assisté et d'euthanasie lors de débats décousus ces derniers jour, les sénateurs ont finalement rejeté un texte déjà vidé de sa substance. Une pollution préoccupante dans les Hauts-de-France, de l'eau du robinet polluée au fongicide, au fluopyrame pour être précis, un produit phytosanitaire utilisé pour l'agriculture. L'ONG Génération Future a publié une enquête ce matin montrant des taux de concentration dans l'eau supérieurs à la réglementation pour 83 000 habitants de la région. 46 communes sont concernées. Les explications de Luna Baudouin-Gaujon.
Des teneurs en fongicides qui dépassent la limite de qualité réglementaire dans l'eau. C'est le cas à Avesnes-le-Comte dans le Pas-de-Calais. Sébastien Berthoux, le maire, ne comprend pas trop pourquoi.
Je suis surpris dans le sens où les dernières analyses que nous avons reçues, pas plus tard que le 14 et le 23 janvier, ne font pas apparaître la présence de fluopyrame. Mais c'est vrai que je suis un peu surpris que cette molécule qui semble avoir un niveau important, depuis 2 mois, n'est plus recherchée par l'ARS. Peut-être qu'elle n'est pas recherchée parce qu'il n'y a pas d'obligation légale et c'est peut-être justement le travail que mène l'ARS, enfin l'Agence régionale ou nationale de santé plutôt, qui est en train de voir cette problématique pour justement fixer une norme.
Alors une eau polluée au fluopyrame ne présente pas un risque sanitaire, rappelle l'ARS, car l'impact sur la santé de ce fongicide n'est pas établi. Les recherches sont en cours, mais il faudrait des normes, demande aussi Pauline Servant, toxicologue de l'ONG Génération Future.
Il faudrait que l'ANSES, donc l'Agence de sécurité sanitaire en France, établisse une valeur sanitaire du fluopyrame pour l'eau potable, une valeur qui n'existe pas pour l'instant, pour savoir à partir de quel niveau dans l'eau potable le fluopyrame peut causer des effets sur la santé et à quel niveau l'eau devrait être restreinte à la consommation. C'est une substance qui est dangereuse. Dans les études qui sont faites chez l'animal, donc une augmentation de l'incidence de certains cancers ont été observées dans certaines études et c'est pour ça qu'il y a actuellement une proposition pour le classer en tant que cancérigène suspecté est en cours d'évaluation au niveau européen.
Une évaluation demandée récemment par l'Autriche, même si Génération Future rappelle que l'alerte sur ce type de fongicide a été donnée par les scientifiques dès 2019. 2018.
Luna Baudouin-Goujon, merci. Nouvelle vague, le film de l'Américain Richard Linklater en tête des nominations pour les Césars du cinéma français. 10 nominations au total pour ce film tourné en noir et blanc qui fait revivre Jean-Luc Godard, François Truffaut ou Jean-Paul Belmondo. 3 autres films suivent avec 8 nominations. L'attachement de Karine Tardieu, Dossier 137 de Dominique Moll et L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane de Moustier. La cérémonie des Césars aura lieu le 26 février prochain à l'Olympia à Paris. Le temps demain, nouvelle offensive pluvieuse par l'ouest. 2 départements bretons sont en vigilance orange pour les crues. Le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, de la neige possible sur les reliefs de l'est des 600 mètres des Vosges aux Alpes, en passant par le Jura. Sur le pourtour méditerranéen, c'est le soleil qui devrait dominer. Demain matin, il fera entre moins 1 et 5 degrés en général. Les températures maximales iront de 4 à 15 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck à la technique Ludovic Auger.